assez net. Alors prenez la première objection de Damas. Il est dit dans le psaume « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le cri de ses péchés éloigne de moi le salut. » Or, ces paroles s'appliquent au Christ lui-même puisqu'il les a prononcées sur la croix. Et donc, il y a eu en lui des fautes. Réponse. Comme le dit Damascène, on attribue quelque chose au Christ tantôt par appropriation naturelle et hypostatique, comme lorsqu'on dit qu'il s'est fait homme et qu'il a souffert pour nous, tantôt par appropriation personnelle et relative. On lui attribue alors, en notre nom personnel, certaines choses qui ne lui conviennent d'aucune façon lorsqu'on le considère en lui-même. De là vient que, parmi les 7 règles de Ticonius posées par saint Augustin dans son ouvrage de la doctrine chrétienne, la première a trait au Seigneur et à son corps, le Christ et l'Église, étant regardés comme une seule personne. Sous ce rapport, le Christ parle au nom de ses membres du cri de ses péchés, alors qu'en lui, qui est la tête, il n'y avait aucune faute. Le Christ parle de Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il parle au nom de ceux qui sont intimement liés et qui forment une seule personne. Oui, alors évidemment, il faudrait regarder exactement ce que Damascène attribue. Quelque chose est attribué au Christ par appropriation naturelle et hypostatique. Comme lorsqu'on dit qu'il s'est fait homme et qu'il a souffert pour nous. Tantôt par appropriation personnelle et relative. On lui attribue alors, vous voyez bien que cette attribution personnelle. Propriété. Secundum proprietatem. Dicitur aliquid Christus, uno modo secundum proprietatem. Appropriation, propriété. Alors, ce n'est pas le terme d'appropriation comme dans la très sainte Trinité. Ça, sûrement pas. Mais secundum proprietatem, c'est parce que à cause du secundum, vous voyez, qui dit appropriation. Je crois que c'est à cause de ça. Vous voyez, comme quand Aristote dit kata to morphé. Quand il dit, par exemple, la peau selon la forme. Et que la scolastique dit cause formelle. Alors, ici, on dit « selon la propriété ». Ne traduisons pas « propriété ». Oui, c'est notre manière de parler. Et on dit « selon la forme », c'est pour montrer justement que notre manière de saisir la cause est premièrement au niveau physique, où il y a la distinction forme-matière. Si je transpose cette distinction dans un monde où la distinction matière et forme est dépassée, je parle selon la forme. Et si je traduis cause formelle, j'oublie cette transposition. Alors, je me demande, vous voyez, ce sera intéressant à discuter, je me demande si ici, dicitur aliquid de Christo, uno modo secundum proprietatem naturalem, selon la propriété, le secundum. Donc le selon la propriété. Ça implique une transposition. Mais ce n'est pas la propriété. D'où le terme appropriation. Pour bien faire comprendre que ce n'est pas directement la propriété. Mais c'est une transposition. Alors, pourrait traduire, hein, tout simplement, attribuer quelque chose au Christ, tantôt selon la propriété naturelle. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'au fond, il y a une transposition. Selon la propriété naturelle et hypostatique, comme il est dit que factum est, il est fait homme, et que pour nous, il a bâti. Selon la propriété personnelle et habituelle. En tant que sujet, certaines, dit Contour, certaines choses sont dites, in persona nostra, que sibi secundum, c'est nullo modo contour. Oui.
Je ne sais pas, si vous mettez la distinction cause formelle, cause selon la forme dans ce passage, ça voudrait dire que le fait que Jésus est avec l'homme n'est pas une propriété naturelle et hypostatique.
Non, faisons attention. Vous voyez, le Christ est dans un état qui fait que tout est transposé, forcément. Et c'est ça qu'il veut souligner. Quand je regarde une propriété de la nature, une propriété de la nature, de ma nature. Comme la nature humaine du Christ subsiste dans la personne divine. Vous voyez, tout est transposé. Et je crois que c'est le secondum qui doit souligner là. Oui. Alors, traduire propriété, ça ne va pas. Appropriation, c'est pas tout à fait juste, puisque appropriation en théologie prend une terminologie particulière. Venez, alors, il faudrait presque mieux traduire littéralement, selon la propriété naturelle.
Du point de vue de...
Quoi ? Oui, du point de vue de... Selon. C'est pour ça que je donne cet exemple. Parce que je crois que c'est exactement la même chose. Oui. C'est le selon la nature, selon la forme. Parce que c'est une distinction qui est découverte à un niveau, qui est transposée à l'autre niveau. Vous voyez ? La distinction pour nous, l'homme, corruptible. L'homme est corruptible. En réalité, l'homme, à cause de son corps, entend qu'il a un corps, il est corruptible. L'homme dans le Christ, c'est le Fils de Dieu. Par le fait même, il a un état d'exister différent. Et tout ce qui est attribué à lui prend une nature, prend une modalité différente. Oui, puisque dans une affirmation, on trouve toujours le point de vue du sujet. Donc, alors, il s'est transposé en tant qu'il a un corps. Le Fils de Dieu, le Christ, Fils de Dieu, reste hors. Reste avec un corps, mais tout est dans un état nouveau. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quelque chose d'analogue à la transposition d'un niveau naturel à un niveau qui est divin. Le naturel demeure, mais il est transposé à un autre niveau. Y avait-il dans le Christ un foyer de péché ? On lit dans saint Matthieu ce qui a été formé en elle est l'ouvrage de l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint est un principe qui exclut le péché. Et cette inclination au mal, en quoi consiste le foyer de péché ? Ce foyer ne pouvait donc se trouver dans le Christ. Comme nous l'avons déjà dit, le Christ a possédé d'une manière très parfaite la gloire, la grâce et toutes les vertus. Alors ici, ce n'est plus la science, c'est toutes les vertus. Or, la vertu morale qui se trouve dans la partie irrationnelle de l'âme rend cette partie soumise à la raison. Et elle le fait d'une manière d'autant plus radicale qu'elle-même est plus parfaite. Ainsi, la tempérance soumet le concupiscible. La force et la douceur soumettent l'irascible, ainsi que nous l'avons montré dans la seconde partie. D'autre part, Le foyer de péché consiste dans une inclination de l'appétit sensible vers ce qui est contre la raison. Dès lors, il apparaît avec évidence que plus la vertu est parfaite dans un individu, plus elle affaiblit son foyer de péché. Et puisque le Christ possédait la vertu à son suprême degré, il s'ensuit qu'en lui, il n'y avait pas de foyer de péché. D'ailleurs, une telle déficience, loin d'être utile à la satisfaction, eût incliné plutôt le Christ vers son contraire. Deux raisonnements, et ici, en dernier lieu, point de vue de la satisfaction. C'est curieux. Il aurait pu le dire tout de suite au point de départ. Non. Il donne un autre raisonnement qui est plus formel, parce qu'il ne se prend pas de la finalité, et il se prend de la cause formelle. Quand on peut donner le raisonnement par la cause formelle, on est plus scientifique. Parce que le raisonnement par la cause finale n'est jamais totalement scientifique. Et alors ça, c'est très intéressant pour comprendre la structure, comment ça Thomas pense, hein. Parce que c'est ça qui est intéressant, voir comment il a son laboratoire théologique. Hein. Alors prenez tout simplement ces deux articles, ces articles 1 et 2. Eh bien, quand il s'agit du péché, il ne peut pas donner le point de vue de la cause formelle, il prend le final. Quand il s'agit du fome explicatif, il peut prendre la cause formelle, il prend la cause formelle. Mais il n'exclut pas la finalité. Je crois que l'angoisse est liée au fome explicatif, je crois, radicalement. Les psychologues, les psychanalystes, s'il faut le croire, disent que l'angoisse provient de la mort. Un être qui se sépare vous et la mort va avoir l'angoisse. Conséquence directe de la mort. Je crois que c'est vrai. Je crois que l'angoisse provient de la mort. Provient de cette espèce de. Il est traduit alors justement par un stade de la mort, si vous voulez. Qui montre l'angoisse au conduit au suicide. Ce sera l'angoisse. Bon, c'est vrai, je crois que c'est divers. Donc, encore plus immédiatement, quand je vous laisse le cas, c'est la mort comme bien. Mais je vous laisse le cas, c'est une conséquence.
Est-ce qu'il n'arrive pas à y avoir un raisonnement formel dans l'article premier ? S'il y a perfection, de grâce et de vertu, comment il peut y avoir.
Mais vous savez, hein, n'oubliez pas, regardez le traité du péché dans sa mémoire. Il commence par le vice. Hein, c'est ça. Moi, je crois. Alors, c'est inversé. Femme explicative, c'est le vice. Parce que c'est une disposition. Vous voyez ? Et qu'au fond, on ne peut pas traiter formellement le péché. Parce que le péché dans une privation, on ne peut pas le traiter formellement. Donc c'est ce qui est.
C'est un lâche, comme
ça. Oui, c'est un lâche. Ouais. C'est intéressant. Parce que c'est là, on voit combien c'est pensé.
Oui. Ce terme de promesse, il est typique du Moyen-Âge.
Oui, il est très ancien, le promesse de Catien. Alors ça, historiquement, posez ça au père de Marjorie. Il y a quelques questions à me poser, elles sont dans le cœur. Femme expectative, le foyer de péché. Femme expectative. Je ne pourrais pas vous dire. C'est sûrement bien avant saint Thomas. Pas du tout, ça ne peut pas inventer. Ça doit venir Saint-Augustin. Saint-Augustin en premier. Femme expectative. À quel moment
on distingue les conséquences du péché.
Ah, oui, vous voulez savoir ce que c'est, mais vous ne pouvez pas à quel moment. C'est l'origine, vous l'avez dit, oui, c'est ça. Oui, oui. On distingue la culpa et le fomes. Quand vous faites le traité du péché originel, il y a faute et puis il y a conséquence, fomes peccati. C'est pour ça que saint Thomas, quand il traite de la Sainte Vierge à propos de l'Immaculée Conception, puisque saint Thomas ne croyait pas, saint Thomas dit que Marie n'a jamais péché. Et que la culpa, la faute, n'a jamais existé en Marie. Mais il y avait le fomes. Et que le fomes peccati n'a jamais pu s'actuer en Marie par un secours providentiel, ce qui fait que Marie n'a jamais péché. Et que le fomes peccati a disparu au moment même de l'incarnation. Et la présence de la chair du Christ, sainte, enlevée le fomes peccati en Marie. C'est très beau, c'est pas vrai, mais c'est très beau. C'est comme manière d'essayer d'expliquer, c'est extraordinaire, c'est très ingénieux, si vous voulez. Et ceci pour maintenir davantage ce que dit l'Écriture, tous en Adam péché, sauf Marie. Alors le mystère va nous montrer quelque chose d'encore plus grand, c'est que la miséricorde va faire que Marie va être recréée dès le point de départ. Donc, distinguons bien quand il s'agit du péché originel, le fomes peccati, et puis la culpa. Ça, c'est la faute. Et le fomes, c'est les inclinations mauvaises, quoi. Le désir et l'amour. La propension du sensible par rapport au spirituel.
Oui, parce que son sujet, c'est dans l'âme, dans le corps.
Ça. C'est une grosse question. Vous comprenez que c'est, vous ne pouvez pas séparer l'âme et le corps. Puisque l'âme est créée par Dieu, donc elle est sans péché. Et c'est au moment où l'âme informe le corps que la culpa est dans l'âme. Et le fomes, il est dans l'âme informant le corps. La culpa ne peut être que dans l'âme. Il n'y a pas de faute dans le corps. Tandis que le fomes, qui est une conséquence de la culpa, peut être dans le déséquilibre de organique. Oui. Il est évidemment dans le déséquilibre organique. Mais faisons attention, les trois concupiscences. Et le fomes du côté de la faute de l'orgueil, il n'est pas du côté organique. Oui, c'est un péché originel, une question extrêmement intéressante et difficile. Et c'est très intéressant. Je l'ai fait récemment à Curière, parce que c'était une chose intéressante. Et c'est pour ça que je me souviens très bien l'avoir fait dans mon temps que j'étais étudiant. C'était le bon père de Mans qui faisait ça. Et vous ne pouvez pas accepter. C'est bon, mais les étudiants n'acceptent pas ce que le professeur dise. Hein. Ça oblige de réfléchir beaucoup. Alors, quand on passe des examens, je me suis demandé si j'allais répéter ce que le professeur avait dit ou au contraire faire l'inverse, dire ce que j'avais compris, selon ce que dit saint Thomas, parce que c'est très très net. Saint Thomas s'oppose à la position de saint Augustin. Saint Augustin, lui, met très très fort le point de vue de la chair. Et saint Thomas montre qu'on ne peut pas l'expliquer par là, et qu'on peut l'expliquer que d'une façon morale. C'est parce que Adam avait une responsabilité de chef, de tête. Et parce qu'Adam avait la responsabilité de tête, alors à ce moment-là, sa faute a une répercussion sur tous les autres. Et comme le lien, vous voyez, c'est un lien de chair et de sang qui nous unit à Adam, c'est par le point de vue de la chair et du sang que la faute se transmet. Mais l'explication du péché originel, ce n'est pas la transmission de la chair et du sang. C'est parce que Adam et Ève avaient cette responsabilité par rapport à l'espèce humaine. Oui, alors c'est pour ça que quand on voit ça, ça fait appel directement à la conception de la sagesse de Dieu sur Adam. Adam, tel qu'il nous est révélé, philosophiquement et scientifiquement, ne pouvons absolument pas dire ce qu'il est. Alors évidemment, ça va très loin, parce que qu'Adam ait cette responsabilité sur toute espèce humaine, il fallait donc que, organiquement, son esprit soit parfaitement développé. Son cerveau soit tout de suite de taille Et c'est là où on voit très bien que le point de vue de l'évolution, de la théorie de l'évolution devient très très difficile face à la conception du péché originel. Alors, on peut toujours s'en tirer en disant que l'évolution, c'est de l'ordre de l'opinion, et donc j'attends notre explication scientifique. On peut toujours dire ça. Pour ne pas dire un rejet, j'attends d'autres choses.
Mais comment dire que l'orgueil est une conséquence du péché, enfin, une conséquence du péché originel, alors que chez Adam...
Attendant, pas l'orgueil. La propension, la concupiscence de la vie. La concupiscence, donc la propension.
Mais l'orgueil comme fait, donc là, les conséquences...
L'orgueil comme fait, c'est un péché personnel. Mais il y a une propension à l'orgueil. Et cette propension à l'orgueil est un enracinement, vous voyez, de l'intelligence dans le sensible par rapport au primat d'amour. Très curieux. Alors ça, c'est fort explicatif. Y a-t-il dans le Christ de l'ignorance? On ne supprime pas l'ignorance par l'ignorance. Or, le Christ est venu dans le but de détruire nos ignorances. Il est venu en effet apporter la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il ne pouvait donc pas y avoir de l'ignorance. Conclusion. De même que le Christ possédait la plénitude de la grâce et de la vertu, de même possédait la plénitude de toute science, et c'est de la montrer. Vous voyez les trois qui sont repris ici. Et tandis que la plénitude de grâce et de vertu exclut en lui le foyer de péché, la plénitude de la science exclut l'ignorance à laquelle elle s'oppose. Donc, raisonnement encore par la question même. Il n'y eut donc pas plus en lui d'ignorance qu'il n'y eut de foyer de péché. L'âme du Christ est-elle passible? Jusque-là, c'est très net, voyez bien le raisonnement, ce double raisonnement qui chevauche. L'âme du Christ est-elle passible? Le psalmiste, parlant au nom du Christ, dit « Mon âme est accablée de maux », ce qui s'entend évidemment non de péché, mais de misère humaine, ou comme l'explique la glose, de douleur. L'âme du Christ était donc passible. Conclusion. L'âme unie au corps peut pâtir d'une double manière, selon qu'il s'agisse d'une passion corporelle ou d'une passion animale. Ça, c'est une distinction importante que fait toujours saint Thomas. Patio corporalis, passione animalis. Elle pâtit corporellement du fait d'une lésion du corps. Au point de vue, c'est très intéressant, au point de vue des rapports de l'âme et du corps, hein, ça. Et au point de vue maladie, c'est tout l'aspect de la transformation de l'âme par rapport au corps et la transformation du corps par rapport à l'âme. Toute cette zone intermédiaire qui est toujours très intéressante. Elle pâtit corporellement du fait d'une lésion du corps. L'âme, en effet, étant la forme du corps, ne constitue avec lui qu'un seul être. Dès lors, quand le corps subit une passion corporelle, l'âme se trouve atteinte accidentellement sous le rapport de l'être qu'elle possède dans le corps. Vous vous coupez le doigt. Alors, est-ce que vous vous coupez votre âme? Accidentellement, vous vous coupez votre âme. Il y a un petit bout d'être qui s'en va. Et comme le corps du Christ, ainsi que nous l'avons dit, était passible et mortelle, il s'ensuit nécessairement que l'âme aussi était de ce chef passible. Impossible d'expliquer, venez de prétendre que l'âme du Christ n'est pas passible s'il y a la possibilité de souffrance dans le corps. Mais l'âme peut pâtir encore d'une passion animale dans les opérations qui lui sont, on dirait psychiques aujourd'hui, hein, dans les opérations qui lui sont propres, ou dans celles où elle a plus de part que le corps. C'est ce qui fait que l'on dit que l'âme pâtit de quelque manière, même dans l'intellection et la sensation. Cependant, comme nous l'avons dit dans la seconde partie, à proprement parler, les véritables passions de l'âme sont les affections de l'appétit sensible. Or, celles-ci se trouvaient dans le Christ, tout aussi bien que les autres éléments de la nature humaine. De là cette parole de saint Augustin, quand, sous la forme d'esclave, le Seigneur a daigné vivre la vie humaine, lui-même a fait des affections l'usage qu'il jugeait nécessaire. Si le corps et l'âme humaine sont en lui en une vérité, la sensibilité humaine en lui n'est pas un mensonge. C'est du saint Augustin. Il faut reconnaître nécessairement, néanmoins, que ces passions ne se trouvaient pas dans le Christ de la même manière qu'en nous. Il y avait à ce sujet une triple différence. Tout d'abord, sous le rapport de leur objet, en nous, en effet, les passions nous portent la plupart du temps vers des choses illicites, ce qui ne pouvait se produire dans le Christ. En second lieu, sous le rapport de leurs principes, car nos passions préviennent souvent le jugement de la raison, tandis que dans le Christ, tous les mouvements de l'appétit sensible se trouvent, tandis que dans le Christ, tous les mouvements de l'appétit sensible se trouvaient dès leur origine sous le contrôle de la raison. C'est ce qu'on appelle les propassions, ça. En troisième lieu, sous le rapport de leur effet, en nous il arrive que les mouvements passionnels ne se cantonnent pas dans l'appétit sensible, mais qu'ils entraînent la raison. Le Christ, au contraire, disposait des mouvements naturels de son humaine sensibilité, de telle sorte qu'il demeurait dans l'appétit sensible, sans jamais entraver d'aucune manière le droit usage de la raison. C'est ce qu'explique ainsi saint Jérôme, notre Seigneur, pour montrer qu'il était devenu homme véritable, à éprouver véritablement de la tristesse. Mais parce que cette passion ne dominait pas son âme, il est dit seulement dans l'Évangile, qu'il commença de s'attrister comme il s'agissait plutôt d'une pro-passion. D'abord, ce texte, la passion parfaite serait donc, d'après ce texte, la passion parfaite serait donc celle qui domine l'âme, c'est-à-dire la raison. La pro-passion, c'est la passion qui, commençait dans l'appétit sensible, ne s'étend pas au-delà. C'est un texte très intéressant, selon ceux qui ont étudié les manuscrits de saint Thomas. J'ai vu ça, parce qu'il y a le père Gilles qui était au Sochoir et qui étudiait les manuscrits de saint Thomas des sentences. Quand vous regardez le lieu parallèle des sentences, hein, y a-t-il dans le Christ des passions? Et saint Thomas s'est posé la question. Sentence, distinction 13, question 1. Bien, on voit que c'est un des lieux où saint Thomas a fait le plus de ratures. Saint Thomas, 3-4 fois, est revenu sur cette question de savoir si on pouvait dire que dans le Christ il y avait des passions. Avant saint Thomas, on n'avait pas dire qu'il y avait des passions dans le Christ. Vous voyez, toute l'influence stoïcienne. Aujourd'hui, on sait très grande chez les pères de l'Église. Hein.
les pères de l'Église ont été influencés énormément par le stoïcisme. Or, dans le stoïcisme, la passion est mauvaise. Donc, si la passion est mauvaise, elle n'existe pas. Saint Thomas, avant d'être relu à Aristote, le commentaire des sentences, ne peut pas accepter cette position. Et c'est de comprendre comment il y a des passions dans le Christ. Mais alors, il montre que ces passions sont totalement au service de l'aspect spirituel. Et c'est pour ça qu'il les appelle pro-passions. Pour bien faire comprendre qu'il s'agit des passions, réellement, les passions existent dans le Christ. Donc Jésus est un être passionné. Vous avez le droit de le dire. Jésus est un être passionné. Il est un être passionné, mais ses passions ne dépassaient jamais le domaine de la raison et de l'intelligence. C'était toujours au service de la contemplation et de la miséricorde et de la charité fraternelle. Donc, c'est une question extrêmement intéressante pour ceux qui s'intéressent aux passions de saint Thomas et du traité des passions de saint Thomas. Alors voyez aussi, il faut reconnaître néanmoins que les passions de Christ se trouvaient dans le Christ d'une manière tout à fait différente. Vous voyez, l'état, ce que je disais tout à l'heure, l'état différent. Les passions dans l'homme, les passions dans le Christ. Alors, la triple différence, tout d'abord sous le rapport de leur objet, en second lieu sous le rapport de leur principe, et en troisième lieu sous le rapport de leur effet. Essayer de saisir comment, dans le Christ, les passions étaient dans un état tout à fait particulier. Autrement dit, l'influence du mystère du Verbe incarné modifie les rapports dans le Christ, les rapports de l'âme et du corps. Et ceci au niveau passionnel. Oui.
La manière dont l'artiste va utiliser les passions, ça ne dit pas quelque chose de la manière dont le Christ assumait ses passions. Vous savez que quand l'artiste va utiliser toutes les passions, pour exprimer des choses, mais c'est totalement l'intelligence qui les...
Ah, oui, oui. Pas toujours comme ça. Parce que je crois que justement, chez les artistes, vous voyez la passion constamment dominée.
C'est une passion qui est quand même une matière.
Oui, mais la passion, c'est vrai. Je crois que chez le Christ, c'est un état. C'est très vrai ce que vous dites, c'est que chez l'artiste, en tant qu'artiste, la passion demande d'être entièrement, et je dirais surtout sensible, mais je ne dirais pas tellement de passion. C'est plus que sensible, c'est plus ces qualités sensibles, c'est plus ces sensations qui sont entièrement assumées par l'intelligence. Mais justement, comme elles sont entièrement assumées par l'intelligence, il y a souvent chez les artistes un état passionnel qui n'est pas entièrement dominé à cause du facheré, du sein et du vide. Mais moi, je vous prie l'exemple de l'homme parfaitement vertueux. Alors, chez l'homme parfaitement vertueux, alors la passion est complètement dominée par la vertu et au service de la contemplation et de la miséricorde et de l'amour.
Oui, mais quand l'artiste va par exemple exprimer la colère sur la scène, il est bien obligé à la fois de donner une passion de colère.
Je ne crois pas qu'il exprime les passions du Christ.
Non, je veux dire, son attitude par rapport à la passion. Il doit acquérir une certaine vie. Je ne sais pas.
Je ne mettrai pas. C'est la matière dont il se sert. Alors ça, c'est très vrai. C'est la matière humaine dont il se sert. Il montrera ça pour le domaine de la catharsis. D'accord. Mais je ne dirais pas que c'est propre de l'art. Vous voyez, je dirais propre de l'art, c'est beaucoup plus le domaine propre des sensations. Plus.
C'est-à-dire que certains arts seraient liés davantage, la musique, le théâtre, la danse, tout ça, à la passion, donc à l'affectivité, plutôt qu'à la
sensation.
Présence,
sûrement. Mais je n'oserais pas trop affirmer ce qu'il dit.
Je dirais même dans le théâtre, par exemple, vous avez pris l'exemple du théâtre. Moi, je dirais la colère, les passions exprimées dans le théâtre sont beaucoup trop artificielles pour être vraiment les passions.
Ça dépend du romantisme.
Quoi? Il y a une différence très grande entre l'homme vertueux qui utilise les passions et l'artiste qui utilise les passions.
Sûrement, parce que l'artiste exprime l'état passionnel. Et exprimer l'état passionnel, c'est mettre en pleine lumière la passion. Tandis qu'au contraire, l'homme vertueux ne met pas en pleine lumière la passion. Un homme parfaitement vertueux, hein, qui font la passion, hein, c'est moins sûr. Et c'est pas celui-là qui va regarder. Il aimera mieux regarder l'homme moins vertueux parce qu'il verra mieux la passion.
La passion dans la colère du fils, c'est quand même assez impressionnant.
Très impressionnant.
Là, c'était éminemment vertueux, et pourtant la passion, c'est magnifique.
Ah, c'est sûr. Et c'était la colère d'un homme vertueux. Et c'est son plus fort que les passions d'un homme non vertueux. Oui. Je crois que ça, c'est le propre. La vertu ne supprime pas la passion, mais permet à la passion d'aller plus loin. Oui. Mais l'artiste, l'artiste, parce que justement il cherche le côté sensible de la passion à manifester. À cause de ça, à manifester, c'est celui que je reviens à manifester, donc à l'intellectualiser. À l'intellectualiser, mais je ne crois pas que la trop passion, ce soit premièrement l'intellectualisation, c'est premièrement l'amour, comme chez l'homme vertueux. Oui. Oui.
Est-ce que c'est pour que Saint-Thomas puisse donner un si beau sens aux passions, est-ce que c'est grâce finalement à son analyse de la séquence d'Apart, qui est très bien résumé, la quantité des affections au-delà de la vie des sensibles, justement en séparant l'aspect moral qui était resté jusque-là.
En séparant, en distinguant, tu vois pas. En distinguant, vous voyez, en précisant que le point de vue moral, que le point de vue passionnel est au niveau sensible et amoral.
C'est ça qui
bloquait un peu. Vous savez, quand vous regardez un navire dans les stoïciens de la passion, regardez Sénèque, tous avoir lu une fois dans sa vie le déira de Sénèque, avant le chapitre. Et quand on voit le déira de Sénèque, on comprend. Ce que ça représente, vous voyez. Alors on verra pour après la Pentecôte, pour voir un peu, je ne sais pas, il y aura, je consulterai le directeur des études pour savoir un peu comment faire pour après la Pentecôte. Il y a deux manières, hein, où on continue en laissant peut-être tomber certaines choses, mais on continue. Je trouve que le traité de l'incarnation est tellement important pour nous que j'aime mieux presque le continuer et le continuer l'année prochaine. Parce que c'est un des traités les plus extraordinaires de saint Thomas. Parce qu'il fait la synthèse de tout. Alors, qu'on puisse le voir, le lire comme ça, tout simplement, ça permet, quand on le lit tout haut, simplement une lecture tout haut permet de mieux mettre en lumière certaines choses et mieux voir. Mais j'aimerais bien que le traité de l'incarnation soit vu complètement comme ça, ensemble. Oui, surtout que l'année prochaine, c'est normalement l'Église. Hein, traité de l'Église. Je crois, je sais pas, on verra un petit peu, mais...